Maintenant, nous sommes en présence des membres du FMI, le Front Monstrueux Insurrectionnel, qui s'est créé au printemps dernier, dans la foulée à la fois du mouvement contre le travail et contre les élections. Ce front-là, en fait, s'est retrouvé pour essayer de s'organiser à l'intérieur et contre la marche des fiertés 2017. Donc, ce qu'avant on appelait la Gay Pride, qui s'appelle aujourd'hui la marche des fiertés. Pour commencer, Fistine Lagarde du FMI va nous lire un passage de quoi ? Alors attends, je te reprends le vers la plus couverte des insurrections. C'était toi, Fistine.
Merci. Certaines liront queer comme synonyme de gay et lesbienne ou LGBT. Cette lecture est inadéquate. Alors que celles qui s'intègrent le mieux dans la construction de L, G, B ou T pourraient tomber dans les limites discursives du queer, le queer n'est pas une zone d'occupation stable. Le queer n'est pas simplement une autre identité qui peut être punaisée sur une liste de catégories sociales, nettes, ni la somme quantitative de nos identités. Il s'agit plutôt de la position qualitative de l'opposition aux présentations de la stabilité. Une identité qui problématise les limites maîtrisables de l'identité. Le queer est un territoire en tension, défini en opposition au récit dominant du patriarcat blanc hétéro-monogame, mais aussi en affinité avec toutes celles et ceux qui sont marginalisés, exotisés et opprimés. Le queer, c'est ce qui est anormal, étrange, dangereux. Le queer implique notre sexualité et notre genre, mais il va bien au-delà. Il incarne notre désir et nos fantasmes, et bien plus encore. Le queer est la cohésion de tout ce qui est en conflit avec le monde hétérosexuel capitaliste. Le queer est un rejet total du régime de la normalité.
Merci pour cette belle entrée en matière, Fistine. Du coup, pour un peu aussi dire la suite de ce qu'a été le FMI après la Pride, qui a continué à agir notamment pendant les manifs de septembre contre Macron, la loi travail, blablabla. Il y a eu le Pink Bloc, ce qui s'était aussi constitué pendant la Pride, a continué dans ses manifestations sociales. Il y a voilà, une captation sonore qui a été faite de celle du 21 septembre dernier à Bordeaux. Je vous laisse écouter ça.
Enfermés dans leur palais, libérez les bourgeois, enfermés dans leur palais, libérez les bourgeois, enfermés.
Macron,
longtemps qu'une femme ne se dormit. C'est en train de rire. Macron, Macron, autant qu'une femme ne se dormit. C'est en train de rire. Macron, Macron, autant qu'une femme ne se dormit. C'est en train de
Ça va des deux côtés là. Allez, on va de l'autre côté.
Alors bonjour, on vient d'adhérer à la CGT.
Voilà.
Les pédés sont dans la rue, Macron, t'es foutu. Les lesbiennes sont dans la rue, Macron, t'es foutu. Les pédés sont dans la rue, Macron, t'es foutu. Les pédés sont dans la rue, Macron, t'es foutu. Les lesbiennes sont dans la rue, Macron, t'es foutu. Les non-binaires sont dans la rue, Macron, t'es foutu. Les pédés sont dans la rue, Macron, t'es foutu.
La sodomie, c'est qu'entre amis, donc c'est ce qu'on a pu retenir de ce fabuleux reportage de la manifestation du 21 septembre à Bordeaux. Donc le FMI, Front Monstrueux Insurrectionnel, a commencé en mai et juin dernier à Bordeaux. Est-ce que l'un ou l'une de vous peut nous raconter un peu le début de la formation de ce groupe ?
Oui, je peux en parler un peu, oui. Bonsoir.
Bonsoir Corinne.
Bonsoir Ernest, c'est ça,
c'est ça.
Oui, ça a commencé, ouais, c'était une série de rencontres un peu... Enfin, c'était une somme de rencontres ratées qui se sont faites à un moment, quoi, j'ai l'impression. Ça a été un peu des coïncidences qui devaient se produire au bout d'un moment. Et que finalement, les amis d'amis 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 ont commencé à venir. Et on se retrouvait tous autour d'un constat, c'est qu'on ne se retrouvait pas dans, dans le milieu, comme on dit dans le milieu, à savoir ces endroits là où on écoute Lady Gaga et on achète des mojitos à 8 euros, où finalement les normes sont partout, quoi, je sais pas comment le dire. Il y a des bons homos là-bas en fait. Et nous, on ne voulait pas être des bons homos. On ne voulait pas être dans ce système de représentation qu'on nous sert dans nos sociétés, quoi. Qui a finalement, on dit que ça a aidé à notre reconnaissance, mais finalement c'est un peu une reconnaissance. Enfin, le contrat est un peu dur, quoi. Hein. Clairement, on est reconnu, mais en échange, on doit être musclé et aller sur Grindr et consommer et être bien en phase avec la nation. Enfin, bon, voilà. Je pense que on s'est un peu retrouvé sur ça, je pense.
Très bien.
Je sais pas ce que vous en pensez, mes collègues.
Oui, oui, oui. Mmh. On était sur une figure plutôt monstrueuse, justement, enfin, de ne pas coller à la norme, de ne pas coller aux institutions, de faire par nous-mêmes, en fait, de se défendre nous-mêmes, de parler nous-mêmes, pour nous-mêmes.
Quelle image, qu'est-ce qui se passe dans cette marge des fiertés qui ne colle pas avec, avec ses fondements politiques ?
Mais il n'y a plus de politique en fait.
Le problème c'est qu'aujourd'hui la marge des fiertés elle s'est transformée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a plus la sensation d'être dans un gros spot publicitaire où il y a des chars avec beaucoup de musique, tout ça, et en soi, les messages politiques, ils passent plus. Et la preuve en est que quand nous, on est arrivé avec nos panneaux, etc., les gens n'ont pas trop compris la démarche, et à la limite, on est à la limite de nous taxer d'homophobes ou de ce genre de choses, parce qu'on n'était pas hyper compris. Et on est aujourd'hui dans un truc qui est complètement dépolitisé. Et où en fait, moi j'ai pas fait beaucoup de marche de fierté, comme on dit, Mais c'était un peu une des vraies premières, en tout cas en tant que participante. Et ça m'a assez accablée de voir que j'avais l'impression d'être dans un gros bifort avant de partir en soirée, quoi. Si c'est une fierté pour beaucoup d'être là-dedans, enfin, ça l'était pas du tout pour moi, quoi. Mmh. Là, je parle en tant qu'individu. Mais... Mmh.
Puis il y avait un personnage, mais qui est vachement plus monstrueux que nous, mais qui au final n'est pas aussi original que ça. C'est presque un symbole de tout ce qui se passe, mais dans le monde occidental, je crois. Qui s'appelle le gyrophare. Après, sur Bordeaux, ça s'appelle comme ça, mais ça s'appelle de plein d'autres manières. Dans plein d'autres villes du monde.
Mais c'est une sorte d'inter-LGBT, toutes les associations. Ouais.
Voilà, c'est ça. Et donc voilà, y a vraiment, c'est vraiment une espèce de ratatouille trop cuite de tous les éléments qu'on n'aime pas, quoi. À savoir des liens avec ces femmes et hommes politiques, quoi, qui sont de l'ordre de la dépendance, voire de la soumission, quoi.
Et puis on peut les nommer, enfin, clairement, c'est la mairie de Bordeaux et Alain Juppé.
Oui, voilà. Qui sont aussi une représentation de déjà c'est souvent que des hommes d'ailleurs. Mmh. Une représentation du bon homo, quoi, du bon gay comme on dit. L'homo flic, donc bien musclé, qui va à la salle, qui va faire du pilate.
Et qui adore la police.
voilà. Moi j'ai appris plein de choses personnellement, je connaissais pas l'homo nationalisme. Je ne sais pas si vous savez, les auditeurs, mais donc c'est qu'en fait, il y a plein de PD, enfin des gays, pardon, qui se mettent à voter Front National parce qu'ils pensent que Marine Le Pen va nous défendre contre les sauvages qui veulent nous tuer, quoi, qui veulent voiler nos femmes, et bon, voilà. Et donc il y a vraiment un amour maintenant des gays, des assos LGBT, tout ça, pour la police, pour l'État, pour
l'ordre et la sécurité.
L'ordre et la sécurité, voilà, qui est assez belle à voir, quoi, vraiment. Je suis assez admiratif, quoi. Comment on peut passer de des homos tapés, des trans tapés, tous ces gens-là qui sont pas conformes, qui se sont tabassés par la police, et c'était ça Stonewall en 1969. Ça y est, on vous a donné l'hostie, puis vous faites partie vous êtes des citoyens en fait, c'est ça. Ouais, j'ai l'impression que maintenant tout ce qui est revendiqué par les assos LGBT et tout ça, et c'est pas qu'une impression je pense, hein, c'est vraiment de devenir des citoyens à part entière, quoi. Et donc vraiment c'est se faire intégrer, c'est ça, c'est de l'assimilationnisme comme on fait vivre aux personnes réfugiées et tout ça. C'est comment devenir des bons citoyens, quoi. Donc,
Corinne, je crois que tu avais un texte.
Oui, j'ai un texte à vous lire.
Une sorte d'appel.
Voilà, c'est une sorte d'appel.
Que tu as écrit dans ton cahier de brouillon rouge.
C'est très la mode, les appels, en ce moment. Alors, toi, là. Oui, toi. Toi qui te poses trop de questions sur ta sexualité, sur ton identité. Toi qui ne t'en poses pas assez. Ah non, c'est le mauvais texte, merde. Ah là là. Bon, ça, c'était le brouillon de l'appel. Ça sera dans 40 ans, dans les archives.
C'est le secrétaire de quoi
En Pléiade.
Visiblement.
Ça, quand on sera publié en Pléiade, ça sera là-dedans. Alors, toi là, oui, toi. Toi qui es juste une meuf, juste un PD. Toi, le social traître du cul, qui a raté son admission à la grande foire aux monstres. Toi qui n'a rien compris, qui n'a pas son diplôme officiel de victime. Toi, l'hétéro chelou, qui est anormalement anormal, toujours à la solde de l'hétéropatriarcat. Toi et tes amis qui grouillaient dans l'angle mort des contestations. Le cul coincé entre les grandes assos LGBTQIA+, qui ne représentent qu'elles-mêmes, et les collectifs militants qui ne veulent pas de toi. Tu n'es pas spectaculaire. Tu n'es pas à l'avant-garde de la mondanité. Tu n'as pas fait ta déconstruction. Tu ne culpabilises pas assez. Tu ne parles pas le militant couramment. D'un autre côté, tu ne comprends pas l'idée de se réunir pour se réunir, d'être fier pour être fier, d'exister comme ingrédient de la vieille soupe politicienne ou comme emblème ultime du progressisme que l'on brandit contre tous ces barbares. Toi qui es minoritaire dans la minorité, entends cet appel. Rejoins-nous, on est plein.
Merci Corinne.
De rien.
Avec plaisir. Donc pour continuer, j'avais envie aussi de vous demander, pour vous, ça voudrait dire quoi, couriser les luttes ?
Pas de blanc. très bien. Les queers et les luttes, c'est, ce serait déjà réinjecter quelque chose qui n'existe plus dans les combats LGBT, entre guillemets, qui est la lutte contre le capitalisme et le néolibéralisme. Et puis contre une certaine normativité qui est en train d'imprégner tout le milieu, en fait. Oui, voilà. Pour moi, en tout cas.
Ouais. Ouais. Moi, je vais dire un truc un peu facile aussi, mais ce serait aussi juste qu'à l'intérieur des luttes en général, nos identités puissent être aussi reconnues et qu'on n'attende pas de former une page Facebook pour être invité dans des cortèges, quoi.
Ouais. J'ai l'impression qu'une des raisons, une des forces de la présence du FMI, notamment à travers la forme du Pink Bloc dans les manifs ou dans la Pride, c'était aussi une manière pour pas mal de personnes de trouver sa place dans une contestation et dans une contestation de rue, dans une présence dans la rue. En général, les manifs, c'est très clair, c'est quadrillé. Il y a les syndicats, il y a les groupes autonomes, et en gros, c'est un peu aussi ce qui revient là dans ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est cette manière de queeriser, ce serait aussi se situer entre les deux, quoi, ou à travers les deux, de pas juste...
À travers, on préfère, oui.
À travers, oui. De transpercer les deux.
Exactement.
Pénétrer.
De pénétrer.
Ok, je voulais pas dire le mot. est-ce que je me dis, ouais, vas-y, ça te dit de lire comment faire dans ton cul, cri-cri,
bien sûr. Je vais essayer de sortir
N'hésite
mes meilleurs
pas à parler points. Près du micro,
d'accord. Bonsoir. On nous a volé nos anus juste pour ce qu'ils deviennent roux. Pardon, excusez-moi, problème de micro. On nous a volé nos anus, juste pour ce qu'ils deviennent rouages de leur machine odieuse qui produit le capital, l'exploitation et la famille. Réduit à ses fonctions biologiques, l'anus devient une forteresse impénétrable, singulière, productive. Notre excrément même se voit attribuer une valeur commerciale. Tant de nutriments par centimètre carré, la teneur moyenne en humidité, le coût de traitement. Pour rejeter la logique marchande de la merde, nous acceptons le devenir fleur de l'anus. Agréable, pénétrable, commun. L'anus a 5 muscles. La fleur, 5 pétales. Le poing, 5 doigts. L'anus est la connexion sexuelle commune, une clôture dans les terres communes du plaisir. On refuse la médiation de nos anus sous la logique du biopouvoir pour dévoiler à la place leur rébellion par l'élaboration d'une logique du scato. Pour ainsi dire, les anus de notre révolte sont scatologiques plutôt que biologiques. La grève humaine fleurit à chaque point de rupture, c'est-à-dire à chaque point d'apparition. Parlons de la rupture anale, l'apparition de la matière fécale de nos corps. La grève scatologique humaine ne produira rien dans l'acte de la défécation, tout en ne laissant rien d'autre qu'un rectum vide. Dans l'espace de ce vide, nous devenons des singularités quelconques. Nos résidus, libérés de la logique du capital, prennent des lignes de vol en direction de la police, tandis que nos anus, plus seulement annexes de chair sur une machine de circulation de nitrate, sont remplis d'objets trouvés. Nos anus deviennent du foutre en paillettes, de la merde, du quelconque. Merde partout.
Merci Kikri. Bon alors, Potlatch avant, c'est doit se terminer dans pas longtemps, donc on va essayer de conclure tous ensemble, toutes les Christine du FMI là. Ça va continuer, mais parce qu'il n'y a plus de manif, du coup ça va être un peu un peu plan-plan. J'imagine qu'il y aura quelques actions, des choses comme ça qui vont émerger dans les temps à venir. Et aussi une présence à la prochaine Marche des Fiertés en 2018, donc le rendez-vous est donné pour ça. Et du coup, peut-être qu'on pourrait conclure sur... T'avais deux textes. Oui, toi, Fistine.
Oui.
Je te laisse choisir entre un des deux.
Le premier. C'est un texte de Guillaume Cunningham. qu'il a écrit en 85.
Guy Ockingham, un démon du phare dans les années 70, front homosexuel, action révolutionnaire.
Exactement. Ça s'intitule comme des rats. Se faufilant, dandinant, pressé l'un contre l'autre, à la queue leu-leu au long des boyaux d'égout, du haute tension, des caves de sauna moisie, des sous-sols de garages désaffectés et de hangars de quai, grouillant par centaines dans les mêmes boîtes Glock, trottinant en file et couinant à la lune le samedi soir, les PD m'ont souvent fait penser à des rats. Des rats conditionnés et réagissant au conditionnement des vêtements, des musiques, des sexes, avec l'enthousiasme de cobayes pavloviens qui se seraient portés volontaires. Jusqu'à cette moustache où se concentre leur capacité d'exploration de l'univers, de l'autre rat, leur sensibilité amoureuse, véritable radar et appendice organique en érection permanente qui les rapproche de la jante souricière. L'œil inquisiteur, fureteur, obtus et rusé à la fois, le museau camus, l'incisive aiguë capable de s'entre-dévorer, et pourtant agglomérés entre eux comme par les chaînes invisibles de l'instinct, ils sont guidés vers les repères et leurs nids par des réflexes millénaires. Effrayés d'un rien, paniquards, réagissant tous ensemble, mimétiques l'un de l'autre, ils pourraient former l'objet privilégié d'une expérimentation des comportements collectifs et des mécanismes de foule. Ils semblent toujours parcourir la prison d'un labyrinthe, se heurtant aux parois, infatigables et minutieux, le labyrinthe de quelque gigantesque et effrayant laboratoire. Sous le pont Stalingrad, l'autre soir, les réverbères luisaient sur l'eau noire comme chaque soir, et dans l'ombre comme chaque soir, les rats jouaient à la figure bien connue du roi des rats, laquelle consiste à entremêler et à entrelacer le maximum d'individus. Arrivent deux vieux à casquettes qui balançaient de grosses torches électriques en beuglant des injures au PD. Nos rats de se défaire et de filer aussitôt. Restaient moi, paisible, promeneur, et un jeune arabe, qui n'avait apparemment pas l'intention de s'en laisser compter. En deux bourrades, il eut au fait de mettre à la raison nos débiles agresseurs. Rappliquèrent rassurés les faces de rats déshabitués. Ce fut pour certains reposer courageusement et finalement, au nom du calme responsable, pour tomber sur le malheureux arabe, coupable d'avoir résisté. Avait-on idée de causer pareil scandale ? D'ailleurs, mon histoire ne prouve rien. Les rats ne réagissent pas ainsi. Les rats ne passent pas, après coup, leur frayeur sur l'un de leurs congénères, mettant un rat gris parmi les noirs. Au fond, la psychologie du rat est supérieure à celle de l'homosexuel, du point de vue de l'observateur, bien entendu. Celui-ci a au moins l'instinct d'autodéfense, et la société rat ne sécrète pas de capot. Je suis convaincu d'avance, j'ai, je ne sais pourquoi, un obscur instinct pour ces choses, quand bon nombre de lecteurs seront choqués d'être comparés à des rats. Il va de soi qu'une telle comparaison ne vaut qu'en gros, et non dans le détail, individu par individu. Mais songez que les rats, bien plus, pourraient être choqués de ce parallèle. Ils n'ont pas honte d'être rats. Ils ne s'entre-dévorent qu'en cas de famine. Ils n'ont pas choisi les boîtes où ils sont enfermés. Ils ne mordent que par nécessité. Ils ne font pas de leçons de morale pour déguiser leur lâcheté. Ils s'accouplent sans distinction de sexe, et chez eux, on est très solidaires.
Parfait. Merci Fistine, merci Corinne et merci Cricri. Il semblerait qu'on se retrouvera bientôt sur les ondes de la Clé des Ondes, puisque tous ces gens-là et bien d'autres vont faire leur émission sur cette station. Donc à bientôt.
À bientôt.
À bientôt. À bientôt.
Et on continue avec Princesse Nokia, Tomboy et les chroniques pour terminer l'émission. Tout le monde déteste Bordeaux Métropole et yes. Minouche et ses chroniques érotiques.
Chitty chitty, bang bang, gold hoops and a name chain. 10 boots are like 4 rings. Missy Elliott can't stand the rain. You lame, seen the same games.
Little titties and so damn pretty. Staircase in a crack Philly. Little titties in a fat kitty. Big pants and some stuffed shoes. Pop a bow, Blue's Clues. Titties in my fat belly, my little titties in my fat belly, my little titties in my fat belly. My little titties in my fat belly, my little titties in my fat belly, my little titties in my fat belly.
Bordeaux Métropole. Bordeaux Métropole. Bordeaux Métropole. Bordeaux Métropole. Lié à l'embellissement de la ville et à sa réputation. Nous avons la chance d'avoir de vastes espaces urbanisables. Plus nous avons des handicaps, 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 plus nous avons des handicaps.
Ils lancent des gaz lacrymogènes, vous voyez, des manifestants envoient des projectiles. Vous voyez, là, ils essayent de se protéger, certains essayent de se protéger contre les gaz lacrymogènes. Et là, vous entendez les slogans. Tout le monde déteste.
Bordeaux Métropole.
Ok, donc c'est Tout le monde était à Bordeaux Métropole, comme notre cher concitoyen nous l'a annoncé il y a 10 secondes. L'idée de cette chronique, c'est simplement de dire ce que tu as envie de voir dans Bordeaux Métropole être détruit. Donc, vas-y. Je t'entends.
Moi, ce que je déteste profondément à Bordeaux, mais vraiment le truc qui me fout la gerbe, c'est les gens qui ont la capacité d'habiter à Bordeaux, mais d'habiter et de le vivre bien. Du coup, ce que j'entends par là, c'est tous les étudiants bobos qui sont capables d'aller boire des smoothies à Saint-Pierre et qui vont aller les filles l'été. Et ça veut aussi dire les vieilles bourgeoises qui veulent bien refaire les capus et qui en ont marre de manger trop de kebabs. La capacité à habiter ces espaces inhabitables, quoi. Pas assez connard pour cracher sur les pauvres, mais quand même pas assez schlag pour supporter les poubelles renversées sur les trottoirs. C'est toute la populace qui se faufile et qui s'immisce. Celle qui crache sur le cours de l'intendance, mais qui méprise les dealers de la rue des Forts. Celle qui cherche à pacifier et qui aime bien, au fond, les Portugais de l'Isère. Si seulement ils pouvaient passer plus souvent la Serpillière. Bordeaux, en fait, pour moi, c'est la paix sociale qu'on a tous envie de gerber.
On les voit à l'automne, ils prolifèrent en masse dans nos quartiers, vêtus de leurs sacs poubelles, le visage grimé de mousse à raser, menés par la frustration de l'année passée des aînés. Ils parcourent les rues, en quête de soumission qu'ils n'acceptent pas dans le certes plaisir érotique que peut provoquer un tel jeu, mais dans l'espoir d'obtenir leur place dans le groupe qu'ils constituent depuis l'inimitié la plus totale. Une place qu'ils chérissent, parce que esselés, parce que individuellement, en quête de valorisation dans ce qui leur reste de valorisable. Un corps vide que l'on peut intégrer. Ils le meurtrissent volontiers, si celui-ci peut trouver place dans le non-sens de cet enchevêtrement que constitue le groupe, que rien ne liait, si ce n'est le fait d'avoir pris cher volontairement pour les beaux yeux d'un supérieur qu'il estime seulement pour lui aussi, parce que lui aussi, pendant un an, a subi le même châtiment. Et tout le monde se gausse devant tant de docilité. Tout le monde se retourne et ce n'est pas la pitié qui m'envahit. Si je dois leur tendre la main, ce serait pour aussitôt la retirer, en les regardant avec mépris pour cette docilité forcée que j'espère maigrement voir un jour se retourner franchement contre leur maître. Pour le moment, les bisous de la fac ne sont que source de dégoût profond.
Merci, merci, merci. Du coup, d'avoir Minouche et Jacques d'avoir repris un peu à l'impro ce Tout le monde déteste Bordeaux Métropole, rentrée 2017. On termine avec Minouche qui nous lit un passage de Pompe funèbre de Jean Genet. Donc, pour tous les antifas, il faut vous dire un truc, c'est... En fait, c'est du premier degré. Voilà. À toi, Minouche.
J'aime les gosses de 13 à 15 ans. J'aime leur douceur. Je les aime par haine du bourreau qui est leur contraire. J'aime en eux ce que je fus. Un enfant blond, yeux clairs, bouche grave. Ils me sont aussi très étrangers. Je suis un homme beauté. Mon regard est à un autre niveau que le leur. Pour les voir, ils se dirigent vers le bas. J'éprouve de la tendresse pour eux. Pour regarder le bourreau, je lève la tête. Dans ma chambre d'hôtel, je me regardais devant l'armoire à glace. Derrière moi, sur la cheminée, se réfléchissait dans la glace le portrait du Führer. J'avais le torse nu, mais je gardais le pantalon noir, large et serré aux chevilles. Je me regardais, fixant mes yeux, puis fixant dans la glace l'image du Führer. Que signifie le crachat ? Peut-on cracher sur n'importe qui ? La partie de mon corps la plus importante, c'est mes fesses. Je ne peux l'oublier tant mon pantalon me le rappelle parce qu'il les contient, les serre étroitement. Nous formons un régiment de fesses. Et sa bite, elle était comment ? Et comment que tu voudrais la prendre ? En large ou en travers ? Un esprit injurieux pose en moi cette question à laquelle je n'ose répondre et m'oblige à détourner mon regard de sa verge pour le reporter sur Jean, que j'ai honte d'avoir quitté. Mais je suis trop enfoncée dans l'érotisme pour penser à Jean, sans penser à nos amours. D'autre part, ces pensées sont interdites. Je me sens commettre un crime abominable si j'évoque trop précisément ces endroits les plus chéris, maintenant décomposés et rongés des vers. À quoi penserais-je ? Le papier des murs ne me distrait pas. Chaque fleur, chaque tache d'humidité me ramène à Jean. Il faut penser à lui. Afin d'éviter le sacrilège, dans mon souvenir, mes amours s'idéalisent. Les plus vivantes parties de mon corps se spiritualisent et sa verge elle-même qui prend possession de ma bouche à la transparence d'une verge de cristal. Plus encore, ce que je retiens par la queue, avec mes dents et mes lèvres roses, c'est un corps laiteux et fluide. Un brouillard lumineux qui s'élève au-dessus de mon lit ou d'un gazon mouillé où je suis couché. Il est froid à mes lèvres. Ainsi, j'évite la volupté. C'est à travers ce brouillard glacé que se poursuivent mes amours qu'ils voilent. Les cheveux légers, fous, mais humide d'avoir accroché des gouttelettes de brume après m'avoir marché dans la rosée, enlacés toujours, nous arrivâmes dans un bosquet, sous un hêtre, à l'écorce rouge contre laquelle le bourreau me plaqua. Il m'y plaqua, mais tendrement, en riant comme s'il se fût agi d'un jeu, d'une amicale brimade. Pendant tout le trajet qu'il fit d'un pas long et très lourd, dans le brouillard du sentier au bord du lac, seul le bourreau parla. Adoucissant sa voix trop claire qui risquait de dissiper par quelques coups d'éclat toute la brume des bois, il avait dit en regardant le gazon mouillé « Tu es beau. » tout en libérant de son poing droit l'épaule gauche d'Éric et en lui caressant la joue du dos de la main. Ainsi, la forme la plus spiritualisée de Jean donnait un asile ouaté aux amours d'un bourreau berlinois et d'un jeune hitlérien. Allons jusqu'au bout. Éric et le bourreau se tenaient embrassés étroitement, face à face. Le slip d'Éric était déchiré. Son pantalon de drap kaki tombait, formant entre les jambes un tas de linge épais, laissant dans le brouillard s'écraser contre l'écorce rouge les fesses à la peau douce, ambrée, aussi précieuse à l'œil que le brouillard de lait dont la matière était orientée comme celle de la perle. Éric, suspendu par les deux bras au cou du bourreau, ses pieds ne touchaient plus l'herbe mouillée. Seul y traînait la culotte de drap effondrée entre les mollets nus et les chevilles. Le bourreau, la queue encore raide passée entre les cuisses serrées d'Éric, le soutenait et s'enfonçait dans la terre grasse. Leurs beaux genoux trouaient la brume. Le bourreau serrait le gosse contre soi et, en même temps, l'appuyant sur l'arbre, y écrasait son cul. Éric attirait la tête du mâle qui s'apercevait que la musculature du môme était solide et sa violence terrible. Dans cette position, ils restèrent immobiles quelques secondes, les deux têtes pressées très fort, joue contre joue, et le bourreau le premier s'en décolla, car il avait déchargé entre les cuisses dorées et par la brume du matin veloutée d'Éric. Malgré le bref instant qu'elle dura, la position avait suffi pour faire naître chez le bourreau et son aide de ce matin un sentiment de tendresse simultanée. Éric pour le bourreau qu'il tenait par le cou d'une telle façon qu'elle ne pouvait être que tendre, et le bourreau pour le gosse, car même s'il était nécessité par la différence de taille des deux gars, le geste était si câlin qu'il eût fait fondre en larmes le plus dur des hommes. Éric aima le bourreau. Il voulut l'aimer et il se sentit peu à peu enveloppé dans les plis immenses du légendaire manteau rouge, où il se blottissait en même temps qu'il tirait de sa poche un bout de journal, et gentiment le tendait au bourreau, qui le prit pour s'essuyer la queue.
Merci Minouche. Voilà, Potlatch numéro 22 se termine. On se retrouve dans deux semaines, dans deux mardis, à 21h. Vous pourrez retrouver le podcast sur notre blog radiopotlatch.noblogs.org. Et voilà, donc je remercie les Christine du Front Monstrueux Insurrectionnel d'être venues ce soir pour raconter leur histoire, et toute l'équipe de Potlatch qui est là ce soir, Minouche et Jacques, d'avoir lancé l'émission avec brio en cette en ce octobre 2017. À dans deux semaines. Bisous. Ciao les bolos.
Ça avait l'air de lui faire de la peine, l'évolution actuelle.
Niggas are scared of revolution.
De la bande organisée à la dame FM.
Aimable débauché.
Et les flics qui
blanc. Et les flics qui blanc.
Le casque.
Bordeaux métropole.
Alors ils sortent, passent leur vie dans les bars et les salles de concert.
Il est alors possible de tuer. On le peut bien, n'est-ce pas?
Ces personnages ne vont la quitter que pour se perdre à jamais.
Monsieur, pourquoi allez-vous aujourd'hui?
Potlatch, un mardi sur deux à 21h, 90.1 sur le Play des Ondes.